Radio Doc en Stock. Nous parlions de réalisation au féminin et nous avons l'honneur, le plaisir et l'avantage, le privilège d'accueillir une ancienne du BTS audiovisuel de Biarritz en option montage post-production, Madame Véronique Lagouarde-Segou, interrogée par notre amie Elisa Côté, qui est en deuxième année du BTS audiovisuel montage post-production. Mesdames, je m'efface.
Bonjour Véronique.
Bonjour Elisa.
Après avoir vu donc votre série, j'aurais quelques questions à vous poser. Déjà, dans votre série, donc que je rappelle sur la guerre, en particulier l'année 1942, vous avez fait un énorme travail d'archives, je pense, et j'aimerais vous demander. Comment vous les avez collectées, toutes ces archives, et combien de temps vous avez passé dessus?
Alors, la recherche d'archives s'est faite en plusieurs temps, parce que d'abord, il a fallu déblayer un peu pour savoir ce qu'il existait comme archives, parce qu'il y avait deux contraintes. D'abord, parce que la série est mondiale, donc elle ne se situait pas juste en France ni en Europe, mais dans le monde entier. Donc, il fallait faire un peu un éventail de ce qui existait. Et il y avait une deuxième contrainte qui était que je voulais utiliser des images amateurs. Alors, ça n'existe pas partout, mais c'était une manière pour moi de m'éloigner de l'image de propagande, parce que pendant la guerre, toutes les images sont évidemment dictées par les gouvernements. Et donc, il a fallu chercher dans les bibliothèques. Alors, dans les vidéothèques, alors en France, c'est assez simple. Au Japon, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les gens n'avaient pas le droit de filmer. Et certaines familles avaient réussi à conserver, par exemple, des films précieux de ce qu'ils avaient tourné. Donc, ça a été plus ou moins compliqué. Donc, la première étape, ça a été de trouver où chercher et ce qu'il existait. Donc, ça a bien pris 4 mois.
Quand même.
Voilà. Et ensuite, il y a eu un second travail, parce que pendant ces 4 mois, pendant la recherche d'archives, j'ai commencé à évidemment écrire. Et en fonction de l'écriture, j'avais besoin, pour mettre en scène mes personnages, j'avais besoin d'incarner les gens à l'image, parce que les gens à l'image, sur tous les personnages, il doit y avoir 3 images qui sont vraiment eux, mais sinon c'est jamais eux, à part les photos. Et donc il fallait arriver à les incarner, à les mettre en scène avec d'autres gens, d'autres visages, mais qui auraient pu être eux, et qui sont des images de 42. Alors évidemment, quand je montre une famille, quand je parle d'une femme nazie, c'est évidemment une femme nazie de l'époque, mais c'est pas forcément la femme dont je parle. Donc ça a été un travail, dans un deuxième temps, quand j'ai commencé à écrire, à essayer de cibler beaucoup plus ce dont j'avais besoin pour l'écriture en images, quoi.
Ok, super.
Donc ça s'est fait sur un bon travail. Il y a eu la recherche d'archives a été permanente pendant tout le montage, en fait.
Aussi un grand travail pour la voix qui incarne les personnages, la voix également, la voix off par Anna Mouglalis, je crois. Mm-hmm. comment vous avez trouvé ces voix voilà.
Ouais. Alors ça, c'était un gros travail parce qu'il y a 36 comédiens. 36 comédiens et Anna Mouglalis, ça fait 37. Et je voulais en plus... je voulais d'abord... Il y a des hommes, des femmes, des enfants et des gens de tout âge. Et je voulais absolument retrouver... Je voulais à la fois que ce soit des comédiens pour qu'ils puissent jouer les textes, mais je voulais pas que les textes soient joués, je voulais qu'ils soient incarnés. Donc le casting s'est fait, j'ai dû écouter peut-être 300 personnes pour arriver à mes 36 personnes. Voilà. Et après, c'était une question de feeling, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à mettre la série en fabrication, c'est moi qui enregistrais les voix. Et donc j'avais déjà, c'était mon écriture, et j'avais déjà les intonations de ce que je voulais. Et je savais, par rapport au tempérament et au caractère des personnages, exactement vers quoi aller. C'est-à-dire que j'avais déjà des voix dans ma tête. Donc la difficulté pour l'équipe de casting, c'était de comprendre les voix que moi j'avais dans la tête. Voilà. Mais j'ai eu des comédiens magnifiques, et notamment, donc on a casté dans les cours de théâtre pour les jeunes beaucoup, et j'ai été étonnée par le travail, l'engagement de ces jeunes à faire des voix, et c'était des moments de partage, mais absolument magiques.
Super. Et du coup, je suppose que, comme vous avez dit, il y a eu donc 35 personnages.
Il y en a plus, mais en fait, il y a quelques-uns qui arrivent à reprendre deux voix. Okay. Et puis, moi, j'ai fait une voix aussi pour deux personnages. Donc, il y en a des personnages, il y en a plus, parce qu'il y en a 7 ou 8 par épisode. Donc, je vous laisse faire le calcul.
Du coup, vous avez recueilli beaucoup plus de témoignages que vous en avez utilisés dans le montage ?
Bien sûr, bien sûr. En fait, la recherche au début, elle s'est faite. J'avais l'idée de raconter cette guerre chronologiquement pour qu'on puisse voir l'avancée. Et en fonction de l'avancée, je me disais où est-ce qu'il est intéressant d'aller ? Dans quel pays et pour soulever quel thème, voilà. Mais après, entre l'envie et ce qui existe, c'est pas toujours, on trouve pas toujours ce qu'on veut. Et puis la recherche, elle s'est faite. Il faut savoir que les témoignages de ces personnes, c'est très large. C'est-à-dire que il y a des histoires qui sont prises dans des biographies, il y a des histoires qui sont prises dans des autobiographies, des histoires qui sont prises dans des journaux intimes, mais des histoires aussi qui sont prises dans des interviews, des comptes rendus de procès. Donc tout ça, c'était un travail assez faramineux. Et après, donc je sais pas, dans la recherche des personnages, il y en avait entre 250 et 300 au final. Et puis après, en construisant le film, voilà, j'ai pioché. Non, celles qui me parlaient, celles qui faisaient avancer l'histoire, celles qui pouvaient compléter d'autres histoires. J'avais des arcs que des lignes que j'avais décrites. Par exemple, je voulais absolument me faire la peau d'Heydrich, donc il fallait aussi qu'il y ait des histoires sur ce boucher de Prague. Et donc, en fonction de ce que je voulais raconter, j'ai choisi parmi ces 250 histoires lesquelles pouvaient porter et donner sens et faire avancer l'histoire. Ce qui était compliqué parce qu'en fait, les gens, ils racontent des bribes de vie. Et ce n'est pas forcément au moment où on les attend qu'on en a besoin. Donc, ce n'était pas simple. C'était un vrai casse-tête, mais c'était passionnant. C'est comme une écriture de scénario, en fait.
Du coup, le montage, il a duré combien de temps ?
Le montage, il a duré... Alors, ça va vous paraître énorme, mais c'est très peu. Il a duré un an et demi.
OK.
Un peu plus d'un an et demi. Ouais.
Trois personnes au montage, au générique, j'ai vu.
Alors, non. Enfin, j'étais seule au montage. Par contre, j'avais une super assistante monteuse à qui j'ai beaucoup délégué par la suite. Et puis, pour le sixième épisode qui s'est fait en parallèle des autres, il y a eu un autre monteur qui est intervenu.
Et hier soir, c'était l'avant-première, c'est bien ça. Comment vous l'avez vécu ?
Comment je l'ai vécu, c'est à la fois magique parce qu'on partage et c'est en fait le plus beau moment, le moment du partage. Et c'est à la fois terrifiant parce que quand on porte un film et qu'on travaille de manière assez solitaire sur un sujet, c'est comme je dis, j'ai fait 2 ans et demi de grossesse et d'accouchement et tout d'un coup, il faut le livrer et faut livrer le bébé et le bébé m'appartient plus. Et donc, c'est toujours... Je dis que cette série, j'ai eu l'impression quand je l'ai commencée, il y avait une grande montagne devant moi et je me suis dit, il faut grimper. Et puis quand je suis arrivée en haut, il y a eu l'abîme et le vertige et voilà, c'est le moment où il faut le donner. Donc c'était à la fois un grand moment d'émotion et à la fois c'était terrifiant.
Petite question sur la musique.
Ouais.
Un petit mot sur le compositeur.
Ouais, formidable.
Et oui.
Donc Stéphane Lopez, qui est le musicien, on a eu une manière de travailler tous les deux qui est très particulière, qui est que je ne le fais jamais travailler sur l'image. C'est-à-dire qu'en général, on fait le documentaire et puis le musicien vient plaquer sa musique sur les images. Et moi, j'aime pas travailler comme ça et j'aime pas travailler comme ça avec lui. Et en fait, pour le faire travailler... je lui montrais pas d'image, mais je lui racontais des histoires. Donc je lui racontais un personnage, je l'appelais, puis je restais une demi-heure au téléphone à lui raconter un personnage, à lui raconter comment je l'imaginais, ce que je ressentais, ce que voilà. Et du coup, lui composait par rapport à l'émotion qu'il avait ressentie par le récit et ma propre vision du personnage. Donc, il m'envoyait des grandes pistes pouvant se développer très longuement par rapport à ce personnage-là. Et après, moi, j'ai monté ses musiques et il a ressorti des partitions pour coller à ce que moi, j'avais créé avec ces morceaux de musique. Et il y avait aussi l'intention de donner une particularité à chacun des personnages et puis parfois des petites sonorités de leur pays, mais pas trop. Et puis des espaces, des fois, de liberté, d'envolée. Je voulais pas, en tout cas, que l'image, parce que c'est un film qui est beaucoup sur l'émotion, je voulais pas du tout qu'il l'accompagne l'émotion dans le même sens. C'est-à-dire que je me dis toujours que si on voit du drame à l'image, qu'on parle du drame, il faut pas que la musique soit dramatique, sinon tout ça est assez insupportable. Donc on travaillait, je le mettais beaucoup à distance de tout ça. Donc je lui racontais toujours avec de l'émotion, mais parfois des histoires tristes, je lui racontais avec le sourire. Et du coup, et c'est un génie parce qu'il peut partir il peut créer. Tout d'un coup, il ne sait pas, puis tout d'un coup, paf, ça part. Il y a une envolée. Mais par ses propres thèmes, je vais vous raconter une anecdote. Je ne vais pas être trop longue, mais c'est une anecdote qui est tellement drôle. Il y a un personnage qui s'appelle El Solitario et qui est un personnage qui décide que la guerre, il s'en fout et que lui, il veut faire le tour du monde en voilier. Et il part en solitaire sur la mer. Et donc, je lui raconte ça un soir. Et puis, c'est un musicien très fantasque. Donc, il écrit tout ça et puis il perd ses notes, comme d'habitude. Mais j'adore quand il perd ses notes parce qu'il lui reste que les impressions qu'il a eues. Et je reçois la musique et je ris, je jubile parce que je la trouve magnifique. Et je me dis, mais d'où c'est sorti? Et donc je l'appelle et je lui dis, mais d'où ça t'est venu? Vas-y, raconte-moi. Il me dit, tu m'avais parlé d'un mec comme un cow-boy qui se perd dans le désert. Et voilà. Et du coup, l'image qu'il avait pris et qu'il avait fantasmé par rapport à mon récit, eh ben, c'était exactement le décalage qu'il me fallait et ça collait. Voilà. Mais on a une manière particulière qui nous appartient et c'est vrai qu'on s'entend très bien. Donc, ça marche fort. Et il m'a fait un chef-d'œuvre, quoi. Sa musique est phénoménale.
Oui, on le ressent.
Vraiment, vraiment.
En parlant de personnages, ouais. Lequel des témoignages vous a le plus touché?
Comment vous dire? Comme j'ai vécu avec ces gens, parce que j'avais leur histoire, mais il a fallu que je réécrive les histoires, parce qu'ils n'écrivent pas... Alors, il y a quelques textes que je n'ai pas réécrits, qui sont des... Il y en a très peu, mais c'est des écrivains, donc là, je n'ai pas touché au texte, mais sinon, c'est moi qui ai raconté les histoires. Et pour écrire les histoires, je me suis beaucoup imprégnée d'eux, c'est-à-dire que j'ai appris à les connaître, leur tempérament, avec quels mots ils pouvaient parler, dans quelle classe sociale ils vivaient. Et donc, j'ai eu un attachement très profond, et je dois dire que beaucoup m'ont touchée. Beaucoup sont devenus très familiers à moi, donc c'est très difficile de vous dire il y en a un qui m'a plus touchée que l'autre. Évidemment, un qui m'a vraiment marquée, c'est ce gamin de 15 ans qui est enfermé dans le ghetto de Vilnius et qui va mourir dans le ghetto de Vilnius, enfin juste à côté, et qui décide d'écrire pour résister, et qui écrit sur des petits bouts de papier qui cachent dans les murs du ghetto. Et quand j'ai lu, parce que là par contre j'ai pas touché, parce que quand j'ai lu ces mots, c'était d'une vérité, mais c'était d'une beauté incroyable et c'était impossible de lire sans pleurer, quoi. Et le gamin a 15 ans, enfin à 14 ans quand il commence à écrire. Donc lui, il m'a vraiment bouleversée. Ouais.
Voilà. Je suis émue moi aussi.
Je peux vous parler aussi d'un personnage qui m'a émue parce qu'il est toujours en vie. Et j'ai cité hier une petite phrase parce que ça aussi, c'est la plupart de ceux des personnages qui sont dans le film sont morts. Il y a deux survivants, qui est la petite Valdérez, la petite gamine. Il y a trois survivants. Il y a Francine, une petite fille. C'est les enfants en fait qui sont encore là. Et avec un des personnages qui est toujours vivant et qui est au Canada, qui va avoir 87 ans. Je partageais beaucoup pour raconter son histoire parce que comme il était en vie, je voulais absolument que ça respecte. Et ça, c'était très touchant parce que tout d'un coup, j'avais quelqu'un de vivant qui répondait à mes demandes et qui pouvait partager avec moi la fabrication de sa propre histoire à lui, quoi. Avec tous les risques que ça comporte de se tromper, d'être à côté. Voilà. Donc ça, c'était aussi très touchant.
Non, puis c'est précieux de fixer maintenant cette mémoire-là, puisque les témoins directs ont disparu ou disparaissent.
Oui, oui. Mais dans ce film, on voit qu'on peut transmettre avec des témoins qui ont déjà disparu aussi.
Complètement.
Donc c'est les deux sont intéressants.
Voilà. Elisa ?
Merci.
Les projets à venir ?
Il y en a plein dans la tête.
J'imagine.
Non, il y a plein de projets dans la tête. Voilà, donc j'attends. Vous savez, on est toujours dépendant de... On écrit beaucoup, et puis on propose aux chaînes, et puis après les chaînes veulent ou veulent pas. Donc on verra le prochain. Mais ce sera toujours, en tout cas, ce sera jamais dans les conventions, en tout cas.
D'accord. Merci pour cette belle contribution à la mémoire collective. Sensible, rigoureuse, voilà. À l'image de l'esprit du BTS de Biarritz aussi, voilà. Je crois. On ne se refait pas.
J'en sors.
L'esprit. Merci. Merci,
merci
Elisa.
Beaucoup.
Merci Véronique. Nous allons enchaîner maintenant avec des objets sonores proposés par nos jeunes de l'option montage deuxième année. Et un premier objet consacré à Jean-Luc Godard.
Je ne fais plus, et depuis longtemps, partie de la distribution. Et donc ne suis pas non plus là où vous croyez encore que je suis encore. Je déjeune chez Cordélia et partage son silence. Car moi aussi, je n'ai plus mon cœur dans la bouche.
Lights, camera, action! Déjà, j'ai une idée. Décide toi-même si je dois faire ce scénario ou pas. Si tu dis non, on s'en va.
C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire.
Non, j'écris.
Après tout, les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes, et la vie, c'est la vie.
Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien c'est qu'elle a peur de quelque chose.
Après tout, je suis idiot.
Merde, elle m'en reprend.
Compter combien de fois ils la mettent, cette musique. Parce qu'alors ça devient barbant à la fin. Oh non, c'est pas que je ne l'aime pas. Enfin, je ne la déteste pas, du reste. Disons que c'est un film qui prend son temps. C'est surtout la musique que je retiens du mépris. Et la beauté de Brigitte Bardot, bien sûr. Et pourtant, j'y reviens toujours. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, puisqu'on en est là, qu'on parle de Godard, il y a une phrase qui me plaît bien dans le film « Une femme est une femme ». Belmondo dit à Anna Karina qu'elle est infâme. Et alors, elle lui dit « Je ne suis pas infâme ». Je suis une femme. Enfin voilà, une femme est une femme. Le cinéma, c'est le cinéma. Et Godard, c'est Godard.
Et voici la lumière, voici la joie. Voici la guerre, voici l'ange. Voici la peur, et voici la lumière. Voici la blessure universelle, voici la nuit, voici la Vierge, voici la grâce, et voici la lumière, et voici la lumière, et voici la lumière, et voici le brouillard, et voici l'aventure, et voici la fiction, et voici le réel, et voici le documentaire, et voici le mouvement, et voici le cinéma, et voici l'image, et voici le son, et voici le cinéma. Voici le cinéma, voici le cinéma.
La magie du montage, ressuscitons les morts. Merci pour cette contribution de Fiona et de Melvin. Nous allons... Oui, je reviens un petit peu sur Godard. Là, j'ai reconnu Anna Karina dans Pierrot le Fou. Vraiment, enfin, à titre personnel, je crois que c'est peut-être le, pour moi... Enfin, après, je n'engage que moi. Hein. C'est le film qui montre, je crois, toute l'étendue du talent et toutes les formes d'expression que voulait partager avec nous Jean-Luc Godard. Voilà, Pierrot le Fou, 1965, Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, un road movie, une photographie admirable et un clin d'œil à tous les arts. Voilà. Merci, Monsieur Godard.